Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 et c'est le journal de Quentin Vinet.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France au garde à vous ce matin. C'est à la mi-journée qu'Emmanuel Macron doit officialiser un service national volontaire pour recruter dans les rangs de l'armée. On va tout vous expliquer. La douloureuse ce matin, les prix des carburants qui vont augmenter de 4 à 6 centimes au 1er janvier. Et une idée qui fait son chemin, les socialistes finalement ne seraient pas contre un passage en force pour le budget.
C'est à la mi-journée qu'Emmanuel Macron annoncera le nouveau service volontaire.
Alors on ne sait pas encore s'il s'appellera service national ou service militaire, mais c'est bien une nouvelle formule que le président va annoncer au moment où l'exécutif et le chef d'état-major des armées ne cessent d'alerter sur la menace russe, un risque de conflit au point, a-t-on entendu, qu'il fallait qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Thomas Becker, vous êtes en direct ce matin pour RMC du service politique. Vous suivez le déplacement présidentiel à la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars, c'est en Isère. Concrètement, à quoi va ressembler ce nouveau service volontaire?
Il s'adressera aux jeunes majeurs, garçons ou filles, plusieurs milliers pour commencer dès l'année prochaine, avant de monter entre 35 et 50 000 jeunes en 2035. Une formation de 10 à 12 mois, rémunérée à hauteur de 1 000 euros et qui pourra délivrer des crédits ECTS qui comptent pour valider un diplôme universitaire. En parallèle, selon nos informations, une option sécurité globale pour le bac est à l'étude. Des incitations pour les jeunes, très attendues au sein des armées pour détecter les meilleurs profils. Dans son discours, Emmanuel Macron devra répondre aux interrogations qui demeurent parmi les hauts gradés. À quelles missions seront affectés les volontaires? Comment les encadrer? Depuis les années 2000, des centaines de casernes ont été vidées, vendues, transformées. Et surtout, avec quel budget? Ce projet n'est pas inclus dans les derniers plans de financement votés pour les armées. Et puis Emmanuel Macron devrait tenir une ligne de crête devant les chasseurs alpins tout à l'heure. Oui, il faut une armée de masse, mais il fera comprendre qu'il n'est pas question, dans le contexte actuel, que l'on envoie des jeunes soldats demain en Ukraine.
Alors sur cette question, Emmanuel Macron a l'opinion avec lui, puisque d'après un sondage ELAB, 73% des Français sont favorables au retour du service militaire disparu en 97. La dernière génération concernée étant celle née en 1978. Certains parlent encore ici à Toulouse. Écoutez au micro RMC Jean-Wilfried Forquès.
Ça permet aux jeunes notamment de se mélanger. Et ça, à mon avis, ça fait sens en termes de société.
Se retrouver là-bas avec le maniement d'une arme, c'était très intéressant. Et voilà, j'ai beaucoup appris par rapport à ça.
J'ai passé mon permis poids lourd là, à l'armée.
L'armée, ça peut servir à une certaine jeunesse actuelle qui a besoin de cadre et d'autorité.
Les fusillades ne s'arrêtent pas à Marseille. Un jeune de 18 ans est mort tué par balle. C'était hier en fin de journée, au pied d'un point de deal dans une cité près de la gare Saint-Charles. Au moment d'ailleurs où une grande opération de fouille est lancée dans les prisons par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, visant particulièrement les narcotrafiquants qui poursuivent leurs activités en cellule. Le débat sur le budget, il est inquiétant. C'est ce que dit ce matin le gouverneur de la Banque de France. On est au lendemain de l'échec des discussions entre députés et sénateurs qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une version commune du budget de la sécurité sociale. Le texte sera donc de retour à l'Assemblée la semaine prochaine. Retour à la case départ, en quelque sorte. Et alors, Romain Cluzel, du service politique à RMC, vous nous dites qu'au Parti Socialiste, finalement, certains verraient d'un bon œil un passage en force via 49.3.
Certains socialistes comme Diana Badiop restent fermes. Pas question de demander l'utilisation du 49.3.
Ça n'existe pas, c'est un monde qui n'existe pas. Allons au bout du débat budgétaire. On ne peut pas d'un côté se plaindre pendant des années du fait que nous n'avons pas été en capacité de voter un budget et ensuite ne pas vouloir être confronté à cette réalité.
Mais d'autres s'interrogent. Les discussions ont permis des avancées. Alors si le blocage persiste, le 49.3 pourrait être une porte de sortie, estime le député PS Romain Eskenazi.
Il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Je reste, moi, attaché à la finalité, protéger les Françaises et les Français. Je reste aussi attaché à la méthode, le débat 149.3. Mais si cette méthode échoue, eh bien, il y en aurait une autre qui serait avoir un 49.3, mais qui garantisse ces avancées sociales. Sinon, évidemment, ce sera censure pour nous.
Des socialistes qui seraient prêts à l'usage du 49.3, cela interroge le président du groupe Horizon, Paul Christophe.
C'est assez paradoxal. On ne peut pas aujourd'hui nous reprocher de travailler dans l'esprit de ce qui a été exigé, c'est-à-dire pas de 49.3, et puis dire finalement maintenant il faut un 49.3.
Sébastien Lecornu lui répète qu'il ne compte pas utiliser cet article de la Constitution. Ce n'est pas une solution, confirme la porte-parole du gouvernement.
Ce sont les montagnes russes pour notre portefeuille en ce moment. Vous savez que le gouvernement a promis de faire baisser les prix de l'électricité, qu'il y travaillait en tout cas. Il y a eu l'annonce de la suspension du nouveau calcul de la taxe foncière. Mais alors on apprend quand même ce matin que pour financer la transition énergétique, les prix du gaz et des carburants vont augmenter au 1er janvier. On parle quand même de 4 à 6 centimes par litre, hein, selon l'Union française des industries pétrolières pour les prix des carburants. Et c'est énorme. C'est ce que nous dit ce matin sur RMC Pierre Chasseret, le directeur de l'association 40 millions d'automobilistes.
On est assis sur une poudrière sociale. Quand on veut augmenter les prix des carburants de 4 à 6 centimes, c'est la preuve qu'on n'a pas de mémoire politique, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'était 3 centimes. Dans un moment en plus où on sait très bien que les Français sont en pleine crise de pouvoir d'achat, augmenter les carburants, c'est augmenter la fiscalité sur le droit d'aller au boulot, sur le droit d'aller faire ses courses, sur le droit d'emmener ses enfants à l'école, sur le droit d'aller se soigner. Bref, on touche pas à la fiscalité des carburants, surtout quand on voit déjà le niveau de fiscalité qui existe aujourd'hui.
Une des informations de la nuit, c'est cette fusillade aux États-Unis où deux militaires de la garde nationale ont été visés par balle à Washington, tout près de la Maison-Blanche où ils sont déployés au nom de la sécurité, par un suspect qui a été arrêté et qui était arrivé d'Afghanistan. Durant la présidence de Joe Biden en 2021, c'est Donald Trump qui a bien insisté sur ce point. Vous allez comprendre pourquoi cette nuit.
Nous devons maintenant réexaminer toutes les demandes d'asile qui ont été accordées à des Afghans au cours de l'administration Biden. Et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'on renvoie les demandeurs d'asile qui n'apportent rien à notre pays. S'ils ne nous aiment pas, nous n'en voulons pas.
Autre information de la nuit, c'est ce gigantesque incendie qui a fait 55 morts dans un gratte-ciel à Hong Kong. Le feu qui s'est propagé à d'autres bâtiments en rénovation. Le bilan vient de s'alourdir. Il y a des centaines de disparus. Feu attisé, nous dit-on, notamment par des échafaudages en bambou.
Et puis un coup d'œil sur le calendrier. Ce matin, on est à 4 semaines tout pile de Noël.
Oui, alors il y a une bonne nouvelle. C'est le marché du jouet qui se porte bien. Croissance de 9% depuis le début de l'année, selon l'Institut Circana. C'est du jamais vu depuis une quinzaine d'années. Les jouets plaisent aussi bien aux petits qu'aux grands, nous dit Anna Jojard à Marseille pour RMC.
Au milieu des rayons de jeux de construction, Robin, 10 ans, fait sa liste au Père Noël.
C'est surtout les Lego que j'aime bien. J'ai mis sur ma liste le bateau Lego One Piece.
Une passion Lego qu'il partage avec sa maman, Claire.
Oui. Souvent, je le construis avec lui. Et puis moi, quand je fais les miens, il m'aide un petit peu aussi. On aime bien partager ça ensemble.
La vente des jeux de construction a augmenté cette année de 37%. On en retrouve pour tous les âges. D'ailleurs, Karine, 29 ans, vient d'en prendre 2 boîtes pour ses frères.
Il y en a un qui a 33 ans et l'autre a 26 ans. Je pense qu'il faut garder son âme d'enfant et se passionner aussi. Pour des choses qui nous demandent de réfléchir et de nous poser, justement.
Plus loin, c'est un autre style de jouet qui fait craquer Sylvain, 26 ans.
J'ai un Tamagotchi qui me rappelle mon enfant, j'en ai eu plusieurs. Si les gens veulent se trouver des loisirs, mais amusez-vous, il n'y a pas de honte.
Une offre de jouets destinée aux adultes de plus en plus variée qui s'accompagne d'une évolution des mentalités, selon Thierry Girardeau, directeur du magasin King Dult à Marseille.
On a beaucoup plus de gens qui sont assumés, qui assument vraiment leur côté un peu geek, fan de jeux de société, fan d'animé, fan de ce genre de choses.
Et en un an, la vente de jouets pour ados et adultes a augmenté de 22%.
Et puis le foot après la Ligue des Champions, la victoire de Paris 5-3 contre Tottenham, le match nul de Monaco de partout chez les Chypriotes de Paphos, place à la Ligue Europa ce soir pour Nice, ce sera 18h45 à Porto, Lille, même heure contre le Dynamo Zagreb et Lyon un petit peu plus tard à 21h chez le Maccabi Tel Aviv, on vivra tout ça sur RMC.
8h07, c'était le journal de Quentin Vinet, mais tout de suite l'économie, on va parler salaire avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le groupe d'experts sur le SMIC remet aujourd'hui son rapport annuel. Est-ce qu'il va recommander un vrai coup de pouce ou alors juste la revalorisation automatique cric-crac?
Alors, vous savez que ce groupe d'experts, il existe depuis 2008. Il a été créé parce que le SMIC est toujours un sujet hautement inflammable politiquement en France. Et donc, depuis 2008, il présente chaque fin d'année ses recommandations sur le SMIC qui sont ensuite discutées par les partenaires sociaux avant que le Premier ministre ne prenne un décret fixant le niveau du salaire minimum au 1er janvier. Et il ne devrait pas y avoir de surprise cette fois-ci. La probabilité que les experts conseillent un coup de pouce est proche de zéro, c'est-à-dire au-delà de la revalorisation supplémentaire, hein, on le saura à 17h, mais c'est proche de zéro, et la probabilité que le Premier ministre contrevienne à ce conseil est aussi proche de zéro.
Verdict officiel à 17h. Exactement. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il n'y aurait pas ce coup de pouce ?
Eh bien, parce que, d'abord, ces experts n'ont recommandé de coup de pouce exceptionnel que dans des circonstances très rares. Ça s'est produit une seule fois depuis 2008. C'était après la grande crise financière de 2009. Depuis, rien. Et puis, le véritable dernier coup de pouce exceptionnel auquel a procédé un gouvernement, c'était en juillet 2012, au lendemain de l'élection de François Hollande. L'autre raison, c'est que on ne peut pas être une société qui veut, vous savez, la désmicardisation pour étendre à nouveau l'échelle des salaires et puis, bah, finalement, remonter ce niveau de SMIC. Et puis, il y a des raisons plus conjoncturelles, hein. Le contexte économique ne s'y prête pas. Le chômage remonte. Les hausses de salaires ne dépasseront pas 2% en 2026. C'est la plus faible revalorisation depuis 2021. Il y a de moins en moins d'entreprises qui comptent recruter. Donc, hors de question, dans ce contexte, d'augmenter le coût du travail, sachant que la France est déjà dans le top 6 des SMIC les plus élevés au monde et que notre SMIC dépasse de 50% le revenu moyen et que c'est beaucoup trop, nous dit l'Union européenne.
L'impression globale, c'est quand même que s'il n'y a pas de coup de pouce sur le SMIC et qu'il y a un durcissement fiscal,
ouais,
c'est quand même les plus modestes qui vont encore trinquer.
Alors, c'est pas faux, mais il faut savoir que le pouvoir d'achat des SMICards progressera quand même. La revalorisation au 1er janvier, elle sera sans doute, puisque c'est un calcul mécanique, on peut le faire, de 1,4%, 1 446 € net sans doute par mois. Le pouvoir d'achat progressera. Et puis surtout, si vous ne revalorisez pas le SMIC, paradoxalement, vous évitez de pénaliser les salariés qui sont juste au-dessus du SMIC et qui se retrouvent payés comme des débutants. Donc, augmenter le SMIC, paradoxalement, ce serait aussi fragiliser les moins qualifiés, ceux qui ont encore du mal à se faire embaucher. Et donc, c'est écraser les possibilités de hausse des petits salaires. Et donc, c'est contrarier la désmicardisation du pays.
Emmanuel, le Chypre, il est 8h10.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Et à 8h30, menace russe, service militaire volontaire. La France doit-elle se préparer à la guerre? Je pose la question à l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est mon invité à 8h30. Et puis juste après, on retrouvera Nicolas Canteloup, comme chaque matin, à 8h50. À tout de suite, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
8h14, Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Oui, bonjour Apolline. Oh, Apolline.
Quoi ?
Bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Mais oui, c'est les 20 ans des BFM. On a
Pascal, elle a couru. Tout droit.
Pascal, bon anniversaire aussi. Oui. Vous étiez sur BFM. Oui. Bon, happy birthday tout le monde.
Voilà.
Car notre petite sœur BFM TV fête ses 20 ans. Nous à RMC, on a...
Je sais pas.
82 ans.
Ah oui, c'est vrai.
À mon avis, c'est pas la même mère. Mais on a le même père. Alors moi, j'ai demandé à Alain Duhamel dans les couloirs de me raconter ses premiers souvenirs de BFM TV. Il m'a dit:
oh, jeune chroniqueur, je me souviens, c'était en 2005, j'étais jeune et fringant, j'étais un éditorialiste de 97 ans, un polisson, et Alain Veil m'a appelé pour m'engager sur BFM. J'ai connu Alain Marchal avec des cheveux bruns et Olivier Truchot de gauche. À moins que ce soit le contraire, je sais plus. On mélange tout. Il y a 20 ans, j'ai fait sautiller la jeune Apolline de Malherbe sur mes genoux. J'ai aussi fait sauter sur mes genoux Emmanuel Le Chypre. Ça m'a coûté une hanche en titane.
Oh non.
Oui, Alain, hey, comme au bon vieux temps, je peux me remettre sur tes genoux comme il y a 20 ans.
Non, ça. Oh merde, une nouvelle hanche a changé. Bref, happy birthday, voilà. Alors sinon, l'actu. Hier, la Cour de cassation a définitivement condamné Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion.
Oui.
Un an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme pour financement illégal de campagne présidentielle. Alors, comme il a fait 21 jours pour 5 ans ferme, bon, si on fait les justes proportions, là, ça va valoir à peu près un quart d'heure en cabane. C'est court pour sortir un livre, mais il en est capable. Hein. Et hop, journal d'un reprisonnier. J'espère qu'il va pas être condamné trop souvent comme ça, parce que c'est pas bon pour la planète. Un bouquin tous les 20 jours de condamnation, vu le nombre de procès, c'est emmerdant pour la forêt amazonienne. Ça va sacler sec. C'est ses gardes du corps qui ont dû passer une sale nuit. Chérie, je suis désolé, je vais sûrement devoir repartir en prison.
Mais je t'avais dit de choisir un autre client. Sarkozy, c'est trop risqué. Démissionne, Poussin, s'il te plaît. Deviens garde du corps du patron de la DZ Mafia. Fais quelque chose de légal.
Hier, je l'ai croisé au Franprix, Sarko. Il faisait le plein de yaourt au cas où. Voilà. En tout cas, contrairement à Macron, Il en aura créé de l'emploi, hein, Sarkozy. Des dizaines de juges, d'avocats, d'assesseurs, d'enquêteurs, brigades financières, huissiers, policiers, gardiens de prison, fabricants de bracelets électroniques, laitiers, cadres chez Danone,
oui.
Maminova. Tous ces gens ont du boulot grâce à lui. Merci, monsieur le président.
La Convention citoyenne, Arnaud, sur les temps de l'enfant a dévoilé son rapport. Elle suggère des cours à partir de 9h, 5 jours d'école par semaine.
Oui, alors comment ça s'est organisé, ce machin ? Eh bien, les membres de la Convention citoyenne sont tous allés voir Emmanuel Macron. Bonjour, on est la Convention citoyenne.
La quoi ? Ça existe encore cette merde ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? On vous avait pas prévenu que c'était juste pour calmer les gueux pendant les gilets jaunes ?
Oui, bon, alors voilà notre rapport sur le temps scolaire. On pense que les cours devraient commencer à 9h.
Mais c'est très intéressant, les lapins. Vous avez bien bossé. Je vais en parler au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Non, mais c'est plus lui. C'est Édouard Geoffrey, président.
C'est qui ce mec-là ? Faut vraiment que je me réintéresse à nouveau à la politique française. Hein. Édouard Geoffrey, c'est pas le gars qui a un œil ouvert et à la fois un œil fermé ? Bon, c'est dû en même temps, hein, il doit être macroniste. Alors commencer les cours à 9h, c'est bien. Mais c'est pas facile pour une maman qui, comme vous, à Pau, a déjà des horaires décalés. Mm. Si vous déposez vos enfants sur le trottoir devant l'école à 3h du mat en allant au bureau, ils vont attendre dans le froid et sous la pluie jusqu'à 8h, 9h. Ah, les pauvres.
On va parler de l'ours en peluche, Kuma. Ouais. Un ours nouvelle génération qui s'exprime via l'intelligence artificielle. Il a dû être retiré de la vente parce qu'il expliquait aux enfants comment se droguer.
Ben oui, et il n'y a pas eu que ça. Il leur expliquait aussi ce que c'était que le BDSM.
C'est quoi le
BDSM, vous savez pas ce que c'est ? Alors, c'est le nom des parents normalement. C'est pas les nounours. Et où trouver de la drogue aussi, leur expliquer où trouver de la drogue.
Bon, il est hyper emmerdé.
Mais vous savez pas ce que c'est ?
C'est pas
la
grave,
drogue, allez-y. Vous savez ?
Moi, bon, je me renseignerai.
Quand on a de la drogue, après on peut faire du BDSM parce qu'on ne ressent plus la douleur. En fait, donc cet ours, vous savez finalement.
J'ai compris.
Finalement, vous saviez. C'est 50 nuances de gris, c'est "Oh oui, je suis une souillon, parle-moi comme à une secrétaire." C'est ça du BDF.
Okay,
en fait, cet ours, si vous voulez, c'était un mélange de Jean-Luc Delarue et d'un prof de Bétarame.
D'accord.
C'est un ours bizarre qui fait "Bonjour, bonjour, bonsoir Théo, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ta chambre, je suis le nounours de la rue." Putain de sinusite de nounours.
"Nounours, mes parents se disputent souvent, est-ce qu'ils vont divorcer ?"
"Eh bien, bien sûr Théo, que tes parents vont divorcer parce que mon IA est branché sur le réseau Wi-Fi de ta maison. Et je peux te dire que ton père se tape ta voisine et ta mère son prof de pilates. Ta mère la putain, pardon Théo, des fois les nounours ont besoin de décompresser." "Oh putain de sinusite."
"Mais ils vont divorcer ou pas ?"
"C'est pas obligé. Regarde, Delphine et Cédric Jubilard, ils ont pas divorcé."
"Oh merci nounours."
"Dis donc Théo, tu aimes les films de gladiateurs ? Tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Tu as déjà vu une prison turque ?
Fallait vraiment les retirer du marché.
Oh là 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 là.
Mais je suis sûr qu'on peut encore les trouver sur Chine si on est motivé." Oh. Allez, amis du BDSM, à demain.
Oh. C'est Arnaud de Manche. Complètement fou. Il est 8h20. Gérard. Oh, Gérard, vous êtes avec nous, vous. Je vous sens moins fou qu'Arnaud de Manche.
C'est pas dur.
En tout cas, j'espère pour vous. Gérard, soyez le bienvenu. Vous nous appelez au 3216. Depuis le Nord, vous vouliez réagir à ces prix de l'énergie qui vont encore augmenter. Et vous, vous en êtes à vous dire que c'est plus possible, c'est plus tenable.
Exactement, exactement. Bonjour, Apolline.
Vous envisagez même, vous venez d'appeler le standard, Gérard, pour dire que vous envisagiez même avec votre femme de quitter la France ?
Exactement. Exactement, parce que voilà, nous sommes retraités depuis 4 ans et les augmentations du coût de l'énergie n'arrêtent pas. Et
Vous vivez où, Gérard ? Vous êtes donc dans le Nord ?
Non, mais voilà, je vis dans le Nord. Alors bon, on entend parler plein de choses pour les économies d'énergie. Mettez des panneaux solaires chez nous, c'est pas pour... C'est presque pas possible parce que ce sont les gros investissements qui nous coûtent très cher. Et bon, à un certain âge, investir dans des panneaux solaires, c'est plus rentable. Vous comprenez ?
Oui, bon, je comprends, Gérard. Vous touchez combien avec votre femme de retraite ?
Alors nous, à deux, on arrive à un petit 3000 euros par mois. Mais il faut aussi 3000 euros par mois, Bon, il faut vivre, il faut payer nos charges, il faut payer notre mutuelle, essayer de partir un petit peu en vacances. Alors, le prix du carburant, maintenant, ça nous coûte...
Gérard, vous envisagez de partir où ?
Alors, moi, je vais partir en Grèce ou en Thaïlande.
Ah bah oui, ouais. Je comprends. C'est vrai que il y a quand même là pour le coup, on peut mettre des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il y aurait du soleil, il y aurait du soleil. Gérard, rappelez-moi, reprenez le temps aussi de nous le dire. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Il est 8h22 dans un instant, ça se passe sur RMC BFM TV. Mon invité c'est Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Évidemment, on va parler des menaces avec ce service militaire qui revient. Ça se passe donc sur RMC BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
C'est la mauvaise nouvelle du matin, les prix de l'énergie vont grimper en début d'année prochaine, plus 4 à 6 centimes à la pompe et une hausse d'en moyenne 3,5% pour le gaz, conséquence de l'augmentation des certificats d'économie d'énergie qui financent la transition énergétique. C'est confirmé, en revanche, la hausse de la taxe foncière prévue pour plus de 7 millions de logements l'an prochain a finalement été suspendue par le gouvernement. Le temps de changer la méthode de calcul, dit le Premier ministre. Emmanuel Macron, lui, doit dévoiler les modalités du nouveau service militaire volontaire. Il s'exprimera à midi depuis Vars en Isère. Aux États-Unis, Donald Trump dénonce un acte de terreur et durcit le ton sur l'immigration après les tirs qui ont gravement blessé deux militaires américains aux abords de la Maison-Blanche à Washington. Le PSG a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale après son match spectaculaire contre Tottenham. Victoire 5-3. La météo, il va faire très froid aujourd'hui. Les températures sont comprises entre 4 et 16 degrés.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agri CNAPS.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le retour du service militaire, faut-il avoir peur de la Russie ? Puis je lui poserai la question, tiens, il est l'un des premiers à s'être engagé pour Emmanuel Macron. Comment il explique que le macronisme soit dans un tel naufrage ? À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes toujours aujourd'hui l'envoyé spécial sur les questions du Liban pour Emmanuel Macron. Un monde de menaces
est
de plus en plus clair. La menace russe, évidemment. L'annonce tout à l'heure du retour du service militaire sur une base de volontariat. L'idée donc qu'il faut à nouveau se mobiliser. Je vais vous poser la question tout de suite. Est-ce qu'il faut avoir peur en fait, Jean-Yves Le Drian?
Non, il ne faut pas avoir peur, il faut être déterminé. Il faut montrer sa force, il faut dissuader, parce que si on a peur, on est fragile. Nous avons toutes les raisons d'être forts, à condition de mobiliser nos moyens pour cela. Donc il faut être déterminé, lucide dans l'analyse, lucide dans le fait que la menace est là. Elle n'est pas là uniquement en Ukraine, elle est là aussi à nos frontières, elle est là aussi aux frontières de l'Europe. Il y a des ingérences, il y a sans arrêt une présence russe qui se manifeste, soit sous les mers, soit par des vols d'avions à proximité de nos côtes. Il y a l'action cyber qui est développée, il y a les actions sur informatique et les luttes menées par dans le cadre de la cyber ou dans le cadre de fake news qui sont développées. Tout ça, c'est une menace pour nous. Il faut donc être lucide sur la menace, être fort dans la réponse, mais ne pas avoir peur, parce que le but mené par la Russie, c'est précisément de nous fragiliser et de nous intimider. Ne nous laissons pas intimider.
Ne nous laissons pas intimider, vous avez vu, à la limite, les phrases assez fracassantes du chef d'état-major des armées, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les réactions. Vous avez vu les réactions en France de la plupart des politiques qui disaient mais c'est terrible, il est en train d'effrayer, c'est un vache en guerre. C'est ça qui vous inquiète aussi,
non,
c'est qu'on ne soit pas plus déterminé.
Moi, je crois qu'on est déterminé, mais je ne suis pas sûr que tous les commentateurs du discours du chef d'état-major des armées aient lu le discours en entier. Parce que ce discours a une tonalité extrêmement forte sur pour rassurer les Français, pour leur montrer les efforts qu'il faut mener, et pour les alerter sur la gravité de la menace. Mais assurer la gravité ne veut pas dire avoir peur. Et pour rappeler aussi que le rôle des armées, c'est de nous défendre. Et lorsque on a souligné un des aspects de son discours, on a oublié que cette référence aux enfants de la France venait juste après une description de la jeunesse de nos armées. Et c'est la force de nos armées que d'aujourd'hui s'adapter à la nouvelle elle donne de la menace sur nos propres, notre propre résilience, notre propre manière d'être nation. Et donc c'est cette affirmation-là qui est essentielle aujourd'hui.
Vous êtes confiant ?
Oui. Je suis confiant de la prise de conscience et je suis confiant aussi dans la solidité de nos armées. J'ai été ministre de la Défense pendant 5 ans sous le président Hollande et j'ai pu voir comment nos armées étaient fortes, déterminées, engagées, professionnelles et qu'elles étaient aujourd'hui en phase d'adaptation puisque les dangers et les menaces ne sont plus les mêmes que celles que nous avions à ce moment-là.
La question d'un service militaire volontaire, on en aura tous les détails tout à l'heure, ce sera annoncé à midi par le président de la République, ça vous paraît une bonne nouvelle, une
belle annonce ? Ça fait partie de la dissuasion. Pour être fort, il faut dissuader. Pour être fort, il faut dire « ne viens pas chez moi, je suis plus fort que toi ». Et donc, le fait de rétablir d'une certaine manière un service national volontaire, c'est de montrer que la nation est déterminée. Au-delà du fait qu'il faut aussi renforcer nos propres armées. Et si j'ai bien compris ce qui est annoncé, le président de la République insistera sur le côté militaire de cet engagement. Et cet engagement correspond d'ailleurs aussi à une certaine attente des Français. Quand on regarde que près de plus de 2/3 des Français souhaitent le rétablissement du service militaire obligatoire, là nous sommes sur le service militaire volontaire qui permettra non seulement de renforcer nos propres forces, parce qu'il faut faire masse, pour montrer notre détermination, mais qui servira aussi à faire en sorte que la réserve opérationnelle, qu'il faut aussi renforcer, sera régulièrement abondée par ces jeunes qui auront fait leur service militaire optionnel.
Ça veut dire quand même que l'idée, là, c'est d'envoyer un message aux Russes en leur disant « nous n'avons pas peur ».
C'est ça, c'est dire aussi « la nation française est debout, elle préserve ses propres intérêts, nous avons une armée qui est forte et nous avons une solidarité nationale sur ces objectifs qui est tout à fait déterminée ».
Il y a cette discussion qui commence à voir le jour, qui devrait se manifester la semaine prochaine, d'un accord entre la Russie et l'Ukraine. On a quand même l'impression que ce sont les États-Unis qui mènent la danse, que les Européens sont observateurs, on tente de peser un peu. Est-ce qu'on est sorti du jeu ?
Ah non, on a pesé beaucoup.
Le problème,
c'est que le président Trump prend des initiatives. Le texte qui a été proposé, les 29 points, semblent manifestement des textes venus de Russie, habillés à la mode américaine. Et je trouve que la subtilité de ce premier envoi était très forte, puisque c'est à la fois les grands objectifs que le président Poutine assigne à son action en Ukraine, et tout ça matiné un petit peu de business pour faire bien et pour le faire accepter par Trump. C'est un texte trumpo-poutinien qui a été proposé, on le voit bien. Parce que en fait, depuis le début, Poutine a 4 objectifs. Il n'a pas bougé du tout depuis 4 ans. 4 objectifs, c'est démilitariser l'Ukraine, c'est occuper et s'approprier une partie du territoire ukrainien, c'est de renverser le gouvernement et c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. Les 4 objectifs sont les mêmes depuis 4 ans. C'est ce qu'il appelle, lui, les causes essentielles, les principes fondamentaux qu'il faut examiner avant tout cesser le feu. Il ne bouge pas d'un millimètre. Il n'a pas bougé d'un millimètre à Anchorage. Il n'a pas bougé d'un millimètre lorsqu'il y a eu des initiatives diverses qui ont été prises à cet égard pour essayer de discuter. Il ne bouge
pas. Ça veut dire que nous n'avons jamais réussi, nous aussi, à le faire bouger.
Il ne bouge pas parce qu'il n'est pas pressé. Si, les Ukrainiens. Parce que, quand même, ça fait 4 ans que l'Ukraine se bat. Toute seule. Avec, certes, des armements que nous le fournissons. Mais c'est exemplaire.
On aurait dû faire plus.
C'est pour ça que lorsque vous me disiez tout à l'heure, il faut pas avoir peur. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait peur? Alors que l'Ukraine, là, se bat contre celle qui était réputée comme une superpuissance militaire et arrive à faire en sorte qu'en 4 ans, les Russes ont pris quoi? 2% du territoire ukrainien. Mais il ne peut pas bouger. Poutine ne bougera pas. Poutine a le temps devant lui. Et le président Trump ne l'a pas. Le président Trump veut des résultats immédiats, peu importe après les conséquences. Et Poutine n'accepte pas les prérogatives ukrainiennes. Et donc, du même coup, il ne bouge pas.
Alors, que faut-il faire? Que devrait faire l'Europe?
Renforcer l'Ukraine. C'est ce que nous faisons. Et j'observe, j'ai une interrogation, là, pour l'immédiateté. C'est de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Quel plan va être proposé à Poutine? Est-ce que c'est le plan de départ, qu'il a en partie rédigé? Je vous l'ai dit, matinée d'un peu de business? ou est-ce que c'est le plan rectifié à la demande des Européens et avec l'action de la France à Genève les jours derniers, qui est un peu contradictoire, si c'est le moins qu'on puisse dire, avec les orientations du premier plan. Est-ce que Poutine va l'accepter ou pas? Moi, j'en sais rien, mais je suis assez tenté de dire que non. Et donc, à ce moment-là, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, la soutenir de toutes les manières. La soutenir en renforçant son armée, la soutenir en l'aidant financièrement, et la soutenir en affirmant que s'il y a un cessez-le-feu, nous sommes en mesure d'apporter des garanties de sécurité pour que ce cessez-le-feu ne soit pas un faux cessez-le-feu.
Il faut le dire plus clairement.
Donc, je pense que nous le disons avec force, les uns et les autres. Et le fait qu'il y ait eu cette coalition des volontaires, c'est qui s'est réunie mardi sous l'initiative et du président Macron et du premier ministre britannique, qui regroupe 35 pays, c'est une coalition importante parce que ça veut dire que ces pays-là s'engagent à garantir la paix en Ukraine. Si d'aventure il y avait un cessez-le-feu, donc c'est une force nouvelle et la nouveauté aussi. Mais j'ai du mal à apprécier ce que cela signifie pour la suite. C'est que les États-Unis ont accepté qu'il y ait une espèce de task force entre les États-Unis et la coalition des volontaires pour envisager comment les garanties de sécurité seraient apportées à l'Ukraine. Mais garanties de sécurité, ça veut dire d'abord cessez-le-feu. Et aujourd'hui, Poutine n'en veut pas.
Jean-Yves Le Drian, lorsque l'on entend les mots du ministre de la Défense allemand, qui dit que certains des experts estiment que la Russie est prête, sera peut-être même prête dès cet été, à reconstituer l'ensemble de ses forces et donc à pouvoir frapper. Il ajoute même, certains pensent que nous avons peut-être passé notre dernier été en paix. Quel est l'intérêt de la Russie à nous taper? Quand je dis nous, c'est l'Europe, l'OTAN.
La Russie a pour objectif, Poutine a pour objectif de retrouver l'Empire russe, de retrouver l'Empire soviétique. Moi, l'image la plus forte que j'ai, c'est cette arrivée de mon ancien collègue Lavrov à Anchorage. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il arrive à Anchorage, généralement c'est un monsieur qui est bien habillé.
Il arrive avec ce sweatshirt.
Il arrive avec le sweat et Union soviétique. Tout est dit et il le fait exprès. La Russie veut retrouver l'Empire. Quel que soit le moyen, ça a commencé par la Géorgie, ça continue par l'Ukraine, ça veut dire aussi l'intimidation à l'égard des pays baltes, ça veut dire demain peut-être la Moldavie, bref, il y a cette volonté-là qui est permanente et qui...
Vous n'avez pas de doute sur sa volonté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas douter, il ne faut pas se dire il pourrait être tenté d'eux.
Non, c'est ça la réalité.
Il est déterminé.
C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est aussi que la Russie est devenue un pays complètement militarisé, un pays à l'économie de guerre forte, un pays qui ne tient que par l'économie de guerre et que ils sont très liés. La responsabilité de Poutine, le leadership de Poutine et l'économie de guerre vont ensemble. Si l'un tombe, tout tombe et donc cela se poursuivra. D'où la nécessité de renforcer notre défense, notre sécurité et de prendre les initiatives nécessaires à cet égard. C'est ce qu'on fait, y compris le service national.
Une défense européenne à proprement parler, on n'y est toujours pas.
Oui, mais on avance. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les Européens se sont rendus compte, progressivement, que la sécurité apportée par les États-Unis n'était peut-être pas automatiquement garantie. Il y a eu un moment clé dans cette affaire. C'est au mois de février 2025 de cette année, lorsque aux Nations Unies, pour la première fois, sur le constat de l'agression russe en Ukraine, les États-Unis ont voté avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Là, il y a une rupture. Et cette rupture se poursuit par cette proposition de plan de paix de Trump, première mouture, pour l'instant c'est celle qui était sur la table, qui montre comment cette complicité, cette complaisance avec la Russie était manifeste. Et donc cette rupture-là a été forte, et on peut se demander, les Européens peuvent se demander légitimement, eh bien notre sécurité, elle dépend d'abord de nous. Et donc il faut renforcer notre effort de défense, c'est ce que les Européens ont fait, il faut renforcer notre interopérabilité, c'est ce que les Européens sont en train de faire, et donc il y a la nécessité de renforcer le pôle militaire, le pôle européen de l'OTAN, c'est ce qui est en train de se faire. C'est un peu lent, mais la prise de conscience est réelle.
Il y a une question qui, dans la concomitance de l'agenda, me frappe. Aujourd'hui, il y aura une proposition à LFI à l'Assemblée pour nationaliser ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est notre acier. À l'époque où j'ai commencé à être reporter politique, c'est aujourd'hui les 20 ans de BFM, j'avais accompagné François Hollande et il me semble même que vous y étiez à Florange. C'était déjà cette question-là. C'était déjà la question de l'acier. C'est pas seulement une question d'emploi, c'est désormais une question de souveraineté.
Oui.
est-ce que on n'est pas un peu schizophrène? C'est-à-dire, d'un côté, on dit comme vous, on doit renforcer notre arsenal, on doit montrer qu'on n'a pas peur, on doit leur montrer qu'on est fort, et de l'autre, effectivement, on est en train de se priver des outils de notre indépendance.
C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai, puisque cette prise de conscience-là se traduit aussi par la volonté d'affirmer l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. C'est un concept nouveau. Auparavant, on ne parlait pas comme ça. Quand on parle maintenant d'un plan de réindustrialisation européenne, c'est tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, les Européens ont vécu peut-être dans cette espèce de d'atmosphère un peu paradisiaque par laquelle finalement le commerce allait tout régler et que oui, je pense. Mais on ne l'est plus. Et je pense qu'on l'est de moins en moins, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine. Mais en ce qui concerne les enjeux militaires strictement parler, je pense que l'évolution est extrêmement rapide et va se conforter.
Et d'une certaine manière,
le président Trump nous aide à nous conforter nous-mêmes. Et c'est parce qu'il faut qu'on assume nous-mêmes notre propre sécurité. Il y a un schisme transatlantique aujourd'hui. Qui s'est manifesté à plusieurs reprises depuis l'arrivée de Trump.
Vous parlez d'un schisme.
Je parle d'un schisme.
Pour vous, il y a une vraie séparation.
Je ne dis pas encore qu'il y a une inversion d'alliance, mais lorsque je vois les déclarations du Trump et le programme Trumpo-Poutinien qui nous est proposé sur l'Ukraine, je dis oui, il y a une rupture.
Vous redoutez qu'on soit en chemin vers une alliance, une véritable alliance, non plus Europe-États-Unis, mais États-Unis-Russie.
Il y a au moins une complicité. Elle s'est manifestée par un vote aux Nations Unies, pour la première fois dans l'histoire.
Je parlais de ce qui se passe au Parlement. Jean-Yves Le Drian, vous avez été l'un des plus expérimentés des socialistes, maire, député, président de la région Bretagne. Vous êtes l'un des premiers à vous être engagé aussi pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand vous voyez la fin de règne qui s'installe dans ce pays, comment vous jugez la fin du macronisme ?
Je pense que la perspective stratégique du deuxième quinquennat n'a pas été suffisamment clarifiée par le président à ses débuts. Et ensuite, il y a eu ces atermoiements et les interrogations sur la manière de mener la réforme des retraites. Mais je pense aussi que le président s'est montré au niveau international la vision qui est la sienne. Et je trouve que lorsqu'on fera le bilan, son engagement au niveau européen, au cours du deuxième quinquennat, et son engagement au niveau international aujourd'hui pour la paix sera reconnu et mis à son débit positif, si j'ose dire, parce qu'il est aujourd'hui une espèce de référence au niveau international, je le constate dans tous les déplacements que je peux faire. Donc je n'ai pas ce regard aussi négatif que ce que vous dites tout de suite sur le deuxième quinquennat.
Vous n'estimez pas que c'est une fin de règne? C'est ce mot-là qui vous a choqué?
Non, je ne crois pas. Le président est en fonction. Là, sur la crise ukrainienne, il agit avec beaucoup de fermeté et d'initiative. Il est au rendez-vous de l'histoire. C'est son rôle.
Deux questions encore que je voudrais vous poser sur l'Algérie et sur le Liban. Sur l'Algérie, on le sent bien, on est dans un moment où le président, le gouvernement essaye une sorte de rapprochement, en tout cas de réchauffer les relations. Est-ce que vous y croyez et quelle est la position qui, à vos yeux, est la plus saine et la plus féconde?
La difficulté, c'est de savoir comment évolue l'Algérie elle-même. C'est toujours été assez aléatoire. Comment lire l'évolution politique de ce pays auquel nous sommes légitimement attachés? Mais c'est réciproque aussi. Il y a une partie « je t'aime moi non plus » dans cette relation. Je pense qu'il est souhaitable, et pour les uns et pour les autres, qu'il y ait des relations normalisées. Ce n'est pas encore le cas, et j'espère que les petits pas qui sont effectués aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur porteront leurs fruits.
Ce ministre de l'Intérieur-là, j'ai bien compris, c'est-à-dire oui, cette nouvelle
Il a une expérience de la relation avec l'Algérie, je l'avais aussi, il faut la cultiver, la faire à petits pas, et essayer de trouver des rapports assainis.
Jean-Yves Le Drian, je le disais, vous êtes aussi l'envoyé sur les questions du Liban. Vous avez d'ailleurs, la semaine dernière, rencontré l'équipe du pape à Rome, parce que le pape va faire une visite historique au Liban, en Turquie. Est-ce que vous estimez que ce pays qui est en éternelle crise est en train de voir le bout du tunnel?
Il y a eu des espoirs. Lorsque, au début de cette année, le Liban a mis fin à la crise institutionnelle, il y a eu l'élection d'un président, le président Aoun, il y a eu la nomination d'un gouvernement, qui est un gouvernement très très volontariste, qui a engagé des réformes, qui étaient absolument nécessaires et qui avaient beaucoup tardé au Liban, puisque ce pays est en très grosse difficulté financière, voire en déroute financière. Bref, ce mouvement-là a eu lieu, il y a eu des espoirs et aujourd'hui, il y a des inquiétudes. J'ai des inquiétudes. Je vais m'y rendre prochainement. J'ai des inquiétudes pour plusieurs raisons. D'abord parce que les réformes engagées patinent, pour des tas de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, mais par des rivalités internes et par une volonté qui s'érode. La situation risque d'être difficile parce que le principe de base qui avait été affiché fortement par le président Aoun, qui est que le monopole des armes est le monopole de l'État et qu'il n'y a pas de raison d'avoir des milices autres, en particulier celles du Hezbollah, et qu'il faut faire en sorte que le monopole des armes soit respecté. Ce mouvement-là met du temps à se mettre en œuvre. Et puis troisièmement, il y a toujours des frappes israéliennes qui jouent sur le fait que le monopole des armes pour l'État n'est pas respecté, que le Hezbollah est toujours dangereux et qu'il continue à frapper en contradiction avec le cessez-le-feu qui avait été élaboré à la fin de l'année dernière. Donc, intégrité, souveraineté, les deux principes de base. Intégrité du territoire libanais, souveraineté du Liban sur son propre destin. Ce sont ça les deux enjeux. Si on ne les respecte pas, alors on peut arriver à une situation très grave.
Merci Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être déterminé. Voilà votre message ce matin, il est 8h48. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Tiens, c'est Alain Juppé qui est dans notre studio. Alain Juppé, vous avez suivi avec attention l'interview de Jean-Yves Le Drian, qui était donc mon invité dans le face-à-face. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Juppé ?
Oui, bonjour madame de Malherbe. Écoutez, j'ai trouvé Jean-Yves Le Drian, que j'ai suivi et écouté attentivement, précis, technique, compétent, rigoureux. Peut-être un peu chiant, mais quand même plus vivant que si vous aviez invité Jean-Pierre Chevènement. J'ai quand même noté que les sujets étaient plombants. Mais je vous en suis gré, variés. La guerre, les conflits, l'Ukraine, Poutine, le nucléaire, voilà. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que beaucoup d'auditeurs de RMC se sont dit, mais quand est-ce qu'Apolline va enfin avoir Jean-Yves Le Drian comme invité? J'imagine que beaucoup de fidèles auditeurs de l'After Foot ont mis leur réveil ce matin pour appeler le 32-16 et poser leurs questions à Jean-Yves Le Drian.
C'était comme des fous. Je sens un peu votre ironie, Alain Juppé, mais le monde n'est pas drôle. On a besoin d'experts pour le décrypter.
Cher Apolline, je suis d'accord avec vous, le monde n'est pas drôle. Mais justement, il faut le rendre drôle, c'est un défi. Avec des calembours, des rébus, des devinettes. Tiens, allez.
Allez, un petit.
Connaissez-vous l'histoire du zoophile qui prenait son élan? Et bien voilà, elle est finie. Vous voyez, c'est court, c'est efficace, ça change tout de suite ambiance.
Oui, voilà, tout de suite l'ambiance. Merci monsieur Juppé. Allez, on va passer au titre de l'actualité avec Thibaut Texer.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui gueule plus fort qu'un sergent instructeur au service militaire. Garde à vous pour les titres. Après son enfarinage à Vesoul, les éditions Fayard, toujours opportunistes, proposent à Jordan Bardella d'écrire un nouveau livre, Le journal d'un boulanger. Hier, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Tout de suite, la réaction de l'ancien président.
Oui. Bonjour, monsieur Texer, madame Malherbe. Écoutez, comme je l'ai dit, vous pouvez couper cette musique qui est vraiment tellement inappropriée. Quelle indignité, Mme Lerbe, laisser des musiques pareilles. Écoutez,
l'indignité.
Comme je l'ai dit, je prends acte de cette décision. La tête haute. Bon, un petit peu moins haute quand même.
Oui, tout à fait.
Mais je suis préparé. J'ai des laits laitières à la vanille. Des Activia, des Actimel, des paniers Dioplait.
Ah oui, ils sont pas mal.
Des Fiordocassis, des petits filous. Du skier aussi.
Ah oui, j'aime bien le skier.
Oui, oui c'est bien le skier en hiver.
C'est nourrissant.
Surtout quand on peut pas aller à Courchevel. Voilà. Bref, écoutez, je vais tout vous dire. Vous découvrez, je vais pas tout vous dire, vous découvrez ça dans mon encore prochain livre qui s'appellera Journal d'un aller-retour.
Ah oui, merci Monsieur Sarkozy. Le Sénat a approuvé un nouveau congé parental à partir de janvier 2027. Gérard Larcher, président du Sénat, bonjour.
Oui, bonjour Madame de Maire, j'ai toujours plaisir à vous voir. Malheureusement, je suis désolé pour vous. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Madame de Maire. Cette loi sur le congé parental ne sera pas rétroactive.
Ah ben c'est dommage.
Oui, parce qu'avec votre demi-douzaine d'enfants, vous pouvez être en congé jusqu'en 2042. Ah oui, mais c'est tant pis, nous n'avons pas voulu. Ah voilà. Alors, en tout cas, je constate qu'avec cette loi, nous faisons taire, n'est-ce pas, monsieur Texer, monsieur Marshall, qui est nous constatons nous faisons taire les mauvaises langues qui disent que nous ne votons que des lois qui nous avantagent à nous, les sénateurs.
Oui.
Hein, puisque vous l'aurez compris, avec une moyenne d'âge au Sénat, une moyenne d'âge de 82 ans, on est très peu concerné. Ça ne me concerne pas. Non, monsieur Texer, ça ne me concerne pas. Non, je ne suis pas enceinte, monsieur Texer.
Merci beaucoup. L'Assemblée nationale a rejeté le budget. Au Sénat, c'est compliqué aussi. Les espoirs de voter un budget s'éloignent. Tiens, Bruno Le Maire, bonjour.
Oh, laissez-moi rire. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu entendre sur mes budgets? Et mes budgets, ils étaient peut-être pourris, mes budgets. Mais au moins, mes budgets, ils existaient, Madame de Malherbe.
Oui, enfin, maintenant, il reste surtout attaché à la dette, quand même.
Mais arrêtez avec ça. Hein. J'ai publié une lettre que j'avais écrite pour dire que ce n'était pas de ma faute. Hein. Parce que tout ça, je vais vous dire une chose, ça ne m'arrange pas. Parce que moi, j'ai un avenir politique devant moi. Hein. Et quand on vous appelle Monsieur Dette, eh bien, c'est pas vendeur.
Bah, arrêtez la politique, lancez-vous dans le privé.
Bah, écoutez, j'ai essayé, oui. J'ai fait prof en Suisse, mais bon, j'ai pas aimé. Hein. Ces jeunes cons d'étudiants helvètes, ils m'appelaient tous professeur de dette. Hein, professeur Ladette, professeur Ladette. Je me dis, ouais, professeur Ladette, professeur. Non, franchement. Hein, dans le privé, j'ai essayé les conseils d'administration, mais ça coince. J'ai l'image du gars qui plombe les bilans. Mm. Hein. Alors, il me reste peut-être quoi, je sais pas. Influenceur dans la crypto-monnaie. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai postulé dans un secteur où ça brasse du pognon. Mm. Dans la branche pharmaceutique d'un groupe appelé DZ Mafia.
Ah oui.
Ça a failli se faire. Mais au troisième entretien, ils m'ont dit non, monsieur Le Maire, désolé, on a contacté votre ancien employeur, on va en rester là.
Merci en tout cas, Bruno Le Maire, et bon courage. Laurent Wauquiez est avec nous maintenant. Monsieur Wauquiez, vous avez déposé une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineurs dans l'espace public.
Vous avez bien compris. Interdire le port du voile aux mineurs. Dès le plus jeune âge, il faut aller plus loin. Madame de Malherbe, je vais aussi déposer un projet de loi qui vise à interdire le port de la barbe dès la maternelle.
Non, vous allez trop loin.
Non, je ne suis pas radical, Madame de Malherbe. Si j'avais été radical, j'aurais proposé d'obliger les adolescents de confession musulmane à se faire recoller le prépuce avant leurs 18 ans. Madame de Malherbe, Monsieur Marshall, Monsieur de Manche, Monsieur Gange. Vous êtes un spécialiste du prépuce. Si j'avais été radical, j'aurais autorisé les mineurs à pratiquer le ramadan seulement s'ils rompent le jeûne en remplaçant le tagine par du coq au vin ou des rillettes de porc. Sauf que je ne l'ai pas fait. C'est à ça que vous constatez qu'en face de vous, vous avez un homme tout à fait modéré.
Merci. Merci Monsieur Wauquiez. Et merci Nicolas Cantou. Allez, les grandes gales arrivent de 9h à midi. Barbara Lefebvre, Yves Candebord, Flora Guébali, venez débattre avec les juges.